Les colloques du Collège de France.
Séverine Arsène, qui est précisément spécialiste des questions numériques en Chine. Elle est habilitée à diriger des recherches en sciences politiques et exerce depuis peu les fonctions de directrice exécutive du programme Décrypte à l'INALCO. Les recherches présentées aujourd'hui ont notamment été développées au Media Lab de Sciences Po, où elle est chercheuse associée, mais aussi précédemment au Centre d'études français sur la Chine contemporaine, le CEFC, à Hong Kong. La parole est à vous, Séverine.
Merci beaucoup. Et moi aussi, je souhaiterais remercier Anne Cheng et Alain Supiot de nous avoir réunis ici pour parler de cette thématique très importante qui est la démocratie et la dictature numérique. Et donc, il me revient effectivement de vous parler de la Chine en tant que cette forme de dictature numérique. Alors, c'est vrai, dans nos imaginaires collectifs, ce pays est un peu devenu l'idéal type de ce qu'une dictature est capable de mettre en place au moyen des technologies numériques. Sur ces sujets, en général, la Chine nous sert de point de comparaison. On a tendance à penser ce qui s'y passe sous le prisme de l'altérité. Donc c'est un pays, vous savez, très éloigné, très grand, qui nous inspire à la fois l'inquiétude et la fascination. Et c'est vrai, il y a des particularités chinoises sur ces questions numériques. Elles ont été façonnées par la trajectoire historique et politique de ce pays. On peut prendre quelques exemples, les infrastructures techniques, les réseaux de télécommunications, l'organisation même du tissu économique et industriel. Tout ça est très différent de ce qu'on peut connaître aux États-Unis ou en Europe. Il y a un modèle de gouvernance des technologies numériques qui est compatible avec le régime autoritaire et qui est promu par les autorités chinoises. Il y a des effets d'échelle qui sont dus à la taille du marché chinois et ça a des conséquences concrètes en termes de modèle économique ou en termes de capacité à collecter les données. Et c'est aussi les usages des technologies qui sont très différents et également le regard que porte la population sur ces technologies. Si on en croit les sondages qui sont menés, c'est un regard qui est souvent beaucoup plus positif en Chine que dans la plupart des pays. Tout ça, c'est la part de la culture, si on veut. Moi, je parlerais plutôt d'historicité, de socialisation ou de structure. Et en tout cas, on peut dire qu'il y a vraiment une spécificité chinoise sur certains aspects de ce qui concerne les technologies numériques. Mais pourtant, aujourd'hui, j'aimerais un petit peu compliquer l'analyse et poursuivre sur la lignée tracée à l'instant par Anne Cheng en attirant l'attention sur la part mondialisée de l'industrie du numérique chinoise. C'est cette part qui fait que la Chine et nous partageons des réalités communes. De nombreux travaux de sciences sociales ont montré que la puissance technologique chinoise, elle est le fruit de développements qui ont fait fi des frontières nationales et qui ont aussi fait fi des types de régimes politiques. Au fil des décennies, ce sont des scientifiques qui ont circulé entre la Chine, l'Europe, les États-Unis, Hong Kong, Taïwan par exemple. Ils ont contribué à connecter la Chine à un ensemble de réseaux matériels et immatériels. Des entreprises, des banques internationales, des investisseurs, de l'Afrique du Sud jusqu'au Japon, ont pris des parts dans les start-up chinoises et aujourd'hui, ils figurent au conseil d'administration de ces multinationales que l'on connaît tous. Des étudiants se sont formés entre la ville de Shenzhen et la Silicon Valley. Des industriels ont construit des mines dans des pays riches en ressources naturelles, des entreprises multinationales ont promu les villes intelligentes chinoises dans le monde entier, et des petits entrepreneurs ont fait transiter des millions de téléphones portables bon marché de la région de Canton vers les revendeurs de toute l'Afrique. Et au passage, la Chine est devenue effectivement un acteur majeur du paysage des technologies numériques et à l'échelle mondiale. Donc ça n'est plus seulement un pays lointain auquel on va se comparer, c'est un pays avec lequel nous sommes tous étroitement liés. Et aujourd'hui, on est en train d'assister à un réveil politique sur la question de la compétition, des dépendances, des semi-conducteurs, plus globalement du commerce et de l'influence mondiale de la Chine. Pour moi, ce réveil nous montre que nous avons trop longtemps considéré la Chine sous l'angle de l'altérité. On ne sait pas assez donner les moyens de comprendre ce qui se jouait dans notre relation avec la Chine. Au fond, nous avons besoin de regarder la Chine un peu plus comme un pays normal, au sens de pas exotique, un pays qui peut être étudié avec nos outils de sciences sociales. Alors quand je dis qu'on peine à se représenter ce qui est en train de se jouer dans cette relation, pour la question qui nous occupe aujourd'hui, démocratie ou dictature numérique, qu'est-ce que ça peut signifier ? Je vais essayer de développer 3 points pour être un peu plus concrète. Le premier, ce sera la surveillance, la censure et le contrôle de la population. Le deuxième, ce sera sur l'automatisation, l'intelligence artificielle et ce que ça fait en termes de transformation du travail. Le troisième, ce sera sur l'enrôlement des sciences et des technologies dans la quête de puissance mondiale. Donc premier point, sur la surveillance, la censure et le contrôle des populations. Souvent, on parle de la dictature numérique chinoise, où on utilise le terme de autoritarisme 2.0, par exemple. Alors tout ça est très documenté. J'ai moi-même un peu publié sur ces questions. Dans les années 2000, on avait le grand pare-feu qui a servi à censurer la prise de parole sur Internet. Et puis, on a pris conscience des implications de la reconnaissance faciale pour la surveillance à grande échelle. Et puis, il y a eu les questions des bases de données qui permettaient de ficher les citoyens et de mettre en œuvre des politiques discriminatoires avec des régions qui servaient un peu de laboratoire, par exemple au Xinjiang. En fait, il y aurait beaucoup à dire sur les complications du déploiement réel de certains de ces dispositifs, parce que tout ne marche pas toujours comme prévu. Et puis, il est aussi très important d'en savoir plus sur l'expérience vécue de tout ça, du point de vue des citoyens. Mais aujourd'hui, je vais plutôt m'attarder sur la manière dont tout ça s'inscrit dans des problématiques et des formes de solutionnisme technologique qui circulent à l'échelle mondiale, donc un peu en écho aux conversations qu'on avait ce matin également. Parce que, au fond, la Chine n'a pas œuvré toute seule, de manière isolée, à développer un savoir-faire dans le domaine de la surveillance numérique. Il y a des sociétés occidentales qui ont contribué dès le début à fournir à la Chine et à d'autres pays des solutions technologiques concrètes pour le contrôle des citoyens et pour la censure. Ça a été documenté très tôt, notamment par des ONG et des journalistes. Aujourd'hui, ce sont, à l'inverse, souvent des sociétés chinoises qui s'exportent, avec une offre qui est bien souvent centrée sur la question du maintien de l'ordre. Les sociétés chinoises et les acteurs étatiques, ensemble, vendent des packages commerciaux qui viennent accompagner des démarches de coopération de police, par exemple, avec des actions de formation, avec des financements d'infrastructures, de surveillance et des solutions technologiques clés en main. Donc dans ce domaine, la Chine est devenue une concurrente pour les pays développés, concurrente au plan commercial, parce que ce sont des sociétés chinoises qui vont remporter les appels d'offres pour construire des infrastructures majeures à travers le monde, mais concurrente aussi au plan normatif. On le voit par exemple dans les initiatives qui sont proposées par la Chine dans différents formats multilatéraux et qui vont porter par exemple des éléments sur la cybersécurité ou sur la gouvernance des données. On le voit aussi quand les ingénieurs chinois sont très présents dans les grandes instances de normalisation technique à l'échelle internationale. Au fond, les solutions technologiques se proposent toujours de répondre à des problèmes de société qui sont des problèmes assez classiques et universels. Des problèmes d'ordre public, des problèmes de gestion du trafic automobile, de criminalité transnationale, problèmes de protection de l'environnement, par exemple. Tout ça, ça ne sont pas toujours des problèmes qui sont propres à la Chine. Quoique, dans les contextes autoritaires, il y a une tendance à poser des problèmes d'ordre public qui sont un peu particuliers. Je pense à des types de corruption, par exemple. Mais globalement, ce sont des problématiques qui se posent un peu partout. Et c'est ensuite les approches politiques qui peuvent différer. On va avoir des visions particulières de la citoyenneté. On va avoir un recours plus ou moins important au secteur privé, ou encore une place qui peut être laissée ou pas à la société civile pour co-concevoir des réponses à ces problèmes. Et ces approches sont ensuite incorporées dans les caractéristiques techniques des instruments qui vont servir à la mise en œuvre des politiques publiques. C'est avec tout ça en tête que je m'étais penchée il y a quelques années sur le système de crédit social en Chine. Alors c'est un ensemble de dispositifs assez hétérogènes, et je ne vais pas détailler tout cela ici, puisque j'ai été très attentive aux instructions sur le temps de parole. Et tout ça a été mis en place, évidemment, selon des modalités qui étaient propres à la trajectoire historique chinoise. Il est vrai que les institutions étatiques chinoises sont plutôt propices au fichage des familles et des citoyens, avec un maillage bureaucratique et humain qui est en place depuis parfois des siècles. Mais ce qui m'a surtout intéressée dans ce dispositif de crédit social, c'est la vision politique qui se traduit dans la conception de cet instrument. En fait, le crédit social met en œuvre une vision de la gouvernance qui place la charge de la faute sur les individus, qui les conçoit comme des citoyens, en fait comme des humains assez minimalistes, qui sont calculateurs, seulement mus par des récompenses et des punitions. Et c'est une vision de la gouvernance qui écarte aussi la prise en compte des causes structurelles des problèmes de la société. Et on le voit bien dans certains domaines spécifiques d'application du crédit social quand il s'agit de punir des formes de surendettement dont certaines peuvent être en fait la conséquence de problèmes de santé, par exemple. Ce qui était intéressant aussi, c'est que dans la genèse du système de crédit social, on sait combien les ingénieurs chinois se sont inspirés des systèmes de crédit bancaire qui pouvaient préexister aux États-Unis et qui se sont d'ailleurs répandus partout dans le monde. Ils se sont donc inscrits dans une tendance mondiale qui consistait à concevoir des systèmes de réputation, des systèmes de prédiction et des systèmes destinés à influencer les comportements humains, notamment à travers des logiques de permis à points. Et donc c'est dans cette dernière catégorie que s'inscrit le crédit social. Partout dans le monde, on a fait tout ça parce que le développement des grandes bases de données, des algorithmes, rendait la chose possible. Et que de tels usages n'étaient pas vraiment régulés. Et il me semble que si le système de crédit social nous a inspiré une telle crainte, ça en disait long au fond sur notre sentiment diffus chez nous que pour nous, ce versant possible de l'utilisation des technologies numériques, cette pente autoritaire, c'est peut-être une réalité plus proche qu'il n'y paraît. Mon deuxième exemple, c'est la question de l'automatisation, de l'intelligence artificielle et des transformations du travail, donc en lien assez direct avec ce que Stéphane Lelay nous présentait. Les technologies numériques sont largement mises au service de la puissance économique chinoise. Je ne vous l'apprends pas et ça n'est pas nouveau. Donc, dès les années 1980, les dirigeants chinois ont vu le tournant de l'informatisation. Beaucoup d'entre eux étaient des ingénieurs d'ailleurs. Ils ont regardé ce qui se passait aux États-Unis. Ils en ont conclu que la Chine ne pouvait pas manquer le tournant des autoroutes de l'information. Et donc, depuis 40 ans, les dirigeants chinois ont massivement investi dans des infrastructures de télécommunications et dans des technologies numériques. Et ça a transformé la Chine. Ça a aussi joué un rôle décisif dans l'insertion de la Chine dans la mondialisation. Et aujourd'hui, on le voit dans la recomposition des équilibres ou des déséquilibres économiques mondiaux. Et ça commence à nous poser un problème, également en termes de nos économies à nous. Cette trajectoire, bien sûr, elle a été très complexe. Parce que pour permettre à la Chine de prendre ce tournant, il fallait laisser de l'espace à des entreprises privées. Ce n'était pas une évidence dans le contexte institutionnel qu'on avait en Chine dans les années 80, 90, 2000. Et ça comportait le risque de permettre le développement d'un espace public. D'ailleurs, au début des années 2000, on a eu un moment où beaucoup ont pensé que cet espace public allait pouvoir se développer. Beaucoup de Chinois étaient eux-mêmes très optimistes sur une fenêtre de démocratisation possible. Puis on a vu que ça ne s'est pas déroulé comme ça. Ça comportait aussi le risque de voir ces entreprises accumuler un pouvoir qui pourrait concurrencer l'État du fait des masses de données, d'informations au sujet de la société qu'elles allaient concentrer dans leurs propres infrastructures. Et on a effectivement vu plusieurs périodes de recadrage assez brutales du secteur économique à ce sujet. Aujourd'hui, la Chine se trouve dans un contexte économique plus difficile, avec des inégalités très fortes, des perspectives démographiques assez sombres et un commerce international en berne. La relation économique avec les États-Unis prend une tournure non seulement de compétition, mais aussi de rivalité stratégique. Et dans ce contexte, l'automatisation dans l'industrie est érigée en priorité nationale. Ça passe par la robotisation et par l'intelligence artificielle, d'une certaine façon, quel qu'en soit le coût social et environnemental. L'idée, c'est de se saisir des opportunités économiques, de la possibilité d'accroître la compétitivité du pays, mais aussi de profiter de perspectives d'inclusivité rurale, par exemple. Donc, il y a une volonté d'aborder ces technologies sous un angle positif aussi pour la population chinoise. Mais pour autant, tout ça est en train de remodeler la structure de l'emploi et sa répartition géographique sur le territoire chinois. Et en fait, on constate que ça ne contribue pas à éroder un haut niveau de chômage, particulièrement chez les jeunes, et que bien au contraire, l'automatisation va avoir des conséquences importantes sur le taux de chômage et sur le taux d'activité dans certaines catégories de la population. Et donc, quand tout à l'heure Stéphane Lelay nous parlait de domination algorithmique à laquelle sont confrontés les travailleurs en Europe et aux États-Unis, eh bien c'est un phénomène clairement qui est vrai en Chine aussi. Et dans ce contexte de perte de vitesse économique, en dernier recours, eh bien on devient livreur ou chauffeur de taxi Didi. Alors dans cette trajectoire, là encore, il y a des aspects qui relèvent de la nature autoritaire du régime chinois et aussi de son idéologie. On n'oublie pas que dans un système au fondement léniniste, les données personnelles ou l'intelligence artificielle, ce sont avant tout des facteurs de production. Et on peut dire qu'effectivement, le gouvernement chinois a une approche du numérique qui est bien plus dirigiste, bien plus concentrée sur la question de la production industrielle que ce qu'on peut voir aux États-Unis ou en Europe. Et puis, c'est aussi un contexte dans lequel les travailleurs n'ont vraiment pas beaucoup d'espace pour s'organiser et pour défendre leurs droits, même s'ils tentent de le faire. Et en tout cas, pour proposer des visions alternatives de ce que l'intelligence artificielle pourrait apporter dans le monde du travail. Mais il y a aussi donc des aspects qui relèvent d'un mouvement en train de se dérouler à l'échelle mondiale, autour de ce que le capitalisme numérique est en train de faire à l'économie et au travail. Donc c'est un paysage qui a déjà bien été posé ce matin. En particulier, on peut mentionner que ça passe par des phénomènes de monopole, de concentration capitalistique très forte, de captation des canaux d'information, et puis tous les autres phénomènes qui ont été mentionnés. Globalement, sur ce point, on a des logiques communes, qui sont donc transnationales, et qui produisent des effets assez similaires en termes de dégradation des conditions de travail et de difficulté à construire de l'action collective. Il y a un phénomène d'exacerbation des inégalités, que ça soit entre les pays ou à l'intérieur d'un même pays. Le troisième exemple que j'aimerais prendre, c'est donc la place de la science dans la société. Quand le gouvernement chinois place le numérique au cœur de son programme économique et de son ambition de dominer la compétition mondiale, ça le conduit à enrôler les sciences et technologies au service de la puissance nationale. Là encore, ça n'est pas complètement nouveau, mais c'est encore plus vrai à l'heure de la compétition sino-américaine. Et d'une certaine façon, on peut se dire que de l'autre côté, du côté des États-Unis, ça se passe un petit peu aussi comme ça en ce moment. Alors cet enrôlement des sciences, il s'exacerbe à la lumière de cette compétition géopolitique. Comment est-ce que ça se traduit concrètement du côté chinois? Eh bien, par des investissements colossaux dans la recherche et développement, par la mise en place de manière très top-down de programmes de recherche de grande ampleur, par la construction d'infrastructures de grande taille, comme des supercalculateurs par exemple. Et c'est aussi un gros effort sur les moyens humains. Par exemple, on offre des conditions opulentes à des scientifiques du monde entier pour rejoindre les laboratoires chinois. En même temps, c'est un paysage qui est très contraint, de plus en plus contraint, d'un point de vue politique. Ça se voit très clairement dans le domaine des sciences humaines et sociales, qui sont très censurées, ou alors qui sont enrôlées au service du récit national. Il s'agit de lisser l'histoire nationale pour mettre en valeur des millénaires de civilisation chinoise, en privilégiant, par exemple, au sein des recherches archéologiques, linguistiques ou sociologiques, celles qui pourraient aller dans ce sens-là. Donc ça n'est pas vraiment un havre pour l'esprit critique et l'émancipation citoyenne. Alors, dans le domaine des technologies numériques, tout ça peut paraître un peu plus ambivalent parce que on observe concrètement qu'il y a une certaine place pour de l'innovation. On en parle tous les jours dans les médias, l'innovation chinoise, dans les véhicules électriques, par exemple. Il y a de la créativité dans ce domaine-là. Il y a beaucoup de concurrence entre les projets, mais à l'intérieur de priorités nationales qui sont quand même définies d'en haut. Et par exemple, ça a quand même permis qu'en Chine, on voit émerger sérieusement la question d'avoir des modèles d'intelligence artificielle générative qui sont moins gourmands en énergie. Ça, c'est un sujet que les scientifiques européens ont eu beaucoup de mal à faire reconnaître comme un sujet prioritaire. C'est aussi parce que la sécurité énergétique, pour le gouvernement chinois, c'est un sujet qui se trouve au sommet des priorités stratégiques. Et donc tout le domaine lié aux technologies vertes, par exemple, et les sciences qui servent à nourrir ce domaine d'applications technologiques, font l'objet d'une priorisation très importante. Donc de l'innovation, oui, il y en a. Par contre, s'il y a une catégorie de questions qu'il est vraiment très très difficile de poser en Chine, c'est celle de savoir au service de quel projet de société est-ce que ces technologies numériques devraient être mobilisées. Et là-dessus, il est beaucoup plus difficile d'avoir un débat public. Donc on est dans une course aux capacités de calcul, dont on a dit à l'instant qu'elles étaient extrêmement coûteuses, non seulement en énergie, mais aussi en ressources hydriques, ce qui est une réalité partout dans le monde. Et il n'est pas question de remettre en question la nécessité stratégique de cette direction générale qui est donnée à ces sciences et à ces technologies. Et donc plus généralement, c'est la place des sciences dans la société qui est en jeu. On est en face d'une conception de la science comme ayant principalement pour but le développement de la puissance nationale et pas vraiment l'avancement de notre compréhension du monde au service du bien commun et du progrès social. Concrètement, ça se traduit par des fermetures de départements de sciences sociales et des basculements de budget vers des projets colossaux de développement de technologies numériques, entre autres priorités stratégiques. Et ça n'est pas seulement la Chine. Partout dans le monde où on a ce type de rapport à la science, ça se traduit concrètement par la marginalisation des questions environnementales et sociales, comme les inégalités ou les limites planétaires, et par le recul du débat démocratique. Et donc pour conclure, c'est sur cette question, à mon avis, que l'Europe va maintenant être amenée à se positionner. Il va falloir qu'on soit en mesure de déterminer les termes de la compétition que nous avons envie de mener. Les discours sur le retard ou sur la course, quelque part, nous empêche de prendre le temps de déterminer ces termes. Et donc, il y a un lien aussi avec tout notre rapport à la science, tout notre rapport à la vérité et à la confiance, et le rapport à cette cohésion du tissu social qui a été mentionné plus tôt dans notre conférence. Donc au fond, dans cette compétition globale, s'il nous reste encore un avantage comparatif, ce ne sera pas, à mon avis, sur les milliards que nous pourrons investir ou pas pour peser dans cette compétition technologique. Ce sera plutôt sur notre capacité à développer un espace démocratique et pluraliste que l'Europe pourra encore offrir pour attirer les talents du monde entier. Alors pas ceux qui rêvent de dominer le monde, mais plutôt ceux qui sont motivés pour réfléchir ensemble à notre avenir commun. Je vous remercie de votre attention.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.